Il est 20h01 sur le 93.9, actualité oblige, la politique s'empare du sport ce soir dans Tête de Vainqueur.
Alors comme ça, tu es un champion olympique. C'est intéressant ça.
Oui, oui, il est là, oui. Très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur.
Finale du 80 mètres haies féminin aux Jeux universitaires mondiaux.
Cours, je te dis, mais cours! Mais qu'est-ce qui se passe?
Ah, chute, chute à l'arrière du peloton.
Cours, je te dis!
Tête de vainqueur, l'émission sport de Radio Campus Paris.
Mais pourquoi tu cours?
Un vendredi par mois.
Mais parce que tu cours!
20h.
Bonsoir à tous. En cette période électorale d'après-présidentielle et d'avant-législative, nous vous emmenons ce soir dans les vestiaires de la politique. Comment le pouvoir impacte-t-il le monde du sport, mais aussi comment les sportifs investissent-ils le domaine électoral? Dernier exemple en date, Laura Flessel, ancienne championne olympique d'escrime, elle est devenue mercredi ministre des Sports. Et pour répondre à nos questions ce soir, le responsable des affaires européennes pour sport et citoyenneté, un think tank qui analyse les politiques sportives, mais également l'impact sociétal du sport, Maxime Leblanc, bonsoir.
Bonsoir.
Et cette émission n'est rien sans une équipe de vainqueurs avec la passe en retrait de Julien, salut.
Oui, salut Thibault. Alors ce soir, je vous présenterai quelques sportifs français qui se sont engagés en politique.
Très bien, merci. À tout à l'heure. Léa nous parlera de plusieurs initiatives populaires qui mêlent sport et politique. Et puis ce soir, c'est Mickaël qui m'accompagne pour l'interview. Bonsoir Mickaël.
Salut Thibault.
Et puis Rémi est toujours derrière la console à la réalisation.
Bien le bonsoir Thibault.
Pour la 9e manche de tête de vainqueur de la saison 1, on se part de notre costume cravaté. On vous plonge dans le monde politico-sportif.
Quand la France veut, elle peut. Quand la France prend confiance, elle avance, elle marque des points, elle gagne. Quand la France s'aime, elle est aimée et admirée du monde. Merci pour l'image de la France et pour l'ambition que vous avez imprimée dans nos cœurs. Ces mots, vous les avez peut-être reconnus, ce sont ceux de Jacques Chirac lorsqu'il avait reçu les Bleus pour les féliciter après la Coupe du Monde de football en 1998.
C'est comme cela depuis toujours ou presque, le sport attire les politiques.
Le président élu Emmanuel Macron aime le sport, le tennis et surtout le football. Il a joué latéral gauche et avait sa licence dans l'équipe de l'ENA. En meeting à Marseille, capitale européenne du sport cette année, il avait d'ailleurs affiché son amour de l'OM.
Moi je suis un enfant de la génération du 26 mai 1993.
Il y a certains hommes politiques qui aiment vraiment le sport ou qui le pratiquaient étant jeunes. Il y en a d'autres qui sont complètement à l'ouest. Et on se souvient effectivement de cette image de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui au moment où le speaker pour la finale de la Coupe du Monde donnait le nom des joueurs, bah, lui qui les suivait quand même, qui était allé les voir à l'entraînement, etc. et tout, hormis Zidane, bah, les noms, il avait du mal. Alors il disait numéro 1, Barthès. Il attendait que le gars dise, et comme toute la foule disait « numéro 1, Barthès », donc lui, il disait « numéro 1, Thès ».
Moi, je pense à tous les Français qui sont heureux ce soir. Il y a des occasions d'être parfois en colère ou d'être inquiet. Bon, aujourd'hui, il y a une victoire, il faut la savourer.
Merci beaucoup, monsieur le président.
À l'équipe de France, à personne d'autre. Merci. Et à son entraîneur. L'entraîneur, ça compte.
Il faut dire qu'aimer le sport est devenu très tendance, mais c'est récent.
Et très souvent, il était mal vu pour un homme d'irresponsable, donc politique, hein, ils sont censés l'être, de s'intéresser au sport. Et les gars qui lisaient l'équipe, bon, bah, ils le planquaient entre Le Monde et des journaux dits sérieux. Depuis la Coupe du Monde 98 et certains succès des Français au plus haut niveau sportif, ça a changé.
Maxime Leblanc vient de l'entendre dans cette introduction. Le sport attire les politiques. Il a quoi le sport d'intéressant pour un courtisan au pouvoir?
Écoutez, le sport, c'est certainement l'activité humaine la plus organisée, la mieux organisée, la plus visible. Il y a cette excitation autour du sport, il y a cette excitation des foules. Et c'est vrai que cette récupération politique, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, elle est assez récente, mais elle est véritablement réelle. Nos présidents manquent rarement l'occasion d'accueillir des médailles olympiques ou des champions du monde de football ou de handball à l'Élysée, parce qu'il y a cette exaltation de la force, cette exaltation de la nation, cette manière de montrer qu'on est fort, qu'on est ensemble, qui est toujours intéressante à récupérer dans des moments surtout difficiles pour les politiques. Et ça a été encore une fois très bien dit dans votre sujet, c'est quelque chose qui est récent, ça a été assez mal vu pendant très longtemps, ça date d'il y a d'une vingtaine d'années, ce vrai engouement pour le sport. Il y a un engouement pour la médiatisation du sport et pour le sport professionnel, le sport de très haut niveau et les têtes de gondole du sport de haut niveau. On en parlera peut-être, mais on a très peu entendu parler de sport pendant cette campagne présidentielle. On en entendra certainement très peu parler pendant la campagne des législatives. Ça reste un sujet secondaire, quelque chose de ad hoc qui est récupéré de temps en temps quand c'est nécessaire et quand c'est utile.
C'était le cas notamment avec Emmanuel Macron et la présence de Johan Cabaye, joueur de football qui évolue en Angleterre.
Absolument. Emmanuel Macron l'a bien compris. Hein. Dans les deux premiers jours de son mandat, il a reçu à l'Élysée la commission du Comité international olympique qui venait voir la candidature de Paris. Donc c'est un geste extrêmement fort. Et il a compris quelque chose qui est en train de se développer beaucoup. C'est la diplomatie publique à travers le sport. C'est le soft power et le fait d'utiliser le sport comme un vecteur de communication, de dissémination, de plaidoyer en France et à l'international. On a des grands champions, on a des grandes équipes et le président l'a déjà compris, accueillir les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'incroyable pour une nation.
Alors ça, c'est au point de vue national, si je puis dire. J'aimerais revenir sur une interview SoFoot que j'ai vue, une interview de Jean Lassalle. Lui était ex-candidat à la présidentielle, mais c'était à propos des élections régionales en 2010. Il explique, pour faire une liste, on me disait qu'il fallait des personnalités. J'ai donc demandé à Marwan Chamakh, un ex-footballeur de Bordeaux en partance à l'époque pour l'Angleterre. Il me disait qu'il ne pourrait pas venir aux réunions. Je lui ai dit, on s'en fout, tu seras notre ambassadeur là-bas quand tu es de passage. Je ferai une réunion plénière et on te demandera des autographes. On les signera, toi et moi. Seule la notoriété du sportif compte dans ce milieu-là, dans ce domaine-là.
Dans cet exemple-ci, oui, on voit bien que pour le tissu associatif local, pour les personnes au niveau d'une commune ou d'une ville, elles se reconnaissent dans leurs sportifs, elles se reconnaissent dans leurs champions, elles se reconnaissent peut-être un petit peu moins aujourd'hui dans leur politique. Donc ces sportifs-là, qui peuvent aussi faire passer des messages, ils sont importants à utiliser, entre guillemets, pour les politiques, pour édulcorer un petit peu leur vision locale, leur vision nationale. Donc on voit de plus en plus souvent des sportifs prendre la parole et ça pose problème des fois. Alors quand les sportifs prennent la parole, on leur tombe dessus parce qu'ils le font mal. Quand ils ne la prennent pas, on leur tombe dessus justement parce qu'ils ne la prennent pas et qu'ils doivent être des modèles de société, qui sont des modèles de société pour les jeunes et au-delà. Donc c'est un bon move de la part de Jean Lassalle de l'utiliser comme ça, d'utiliser l'image de Marwan Chamakh. Il a été honnête. Il y a beaucoup de sportifs qui ont des choses à dire. Je pense qu'on peut... On ne doit pas forcément, mais on peut leur donner la parole parce qu'ils font partie de, c'est un terme qui est très à la mode maintenant depuis une semaine, de cette société civile et ils représentent ce dynamisme français, ce dynamisme associatif, ce dynamisme local du sport.
Il y a deux exemples. On peut parler par exemple de Zinedine Zidane qui ne s'exprime que très peu. Il s'est exprimé pendant la présidentielle à propos de Marine Le Pen. L'autre exemple, c'est Lilian Thuram qui parle beaucoup. Est-ce que ça ne peut pas nuire également à un joueur de trop parler ?
Ça fait souvent partie d'une stratégie de communication. Zinedine Zidane, il a trouvé un boulot après avoir arrêté sa carrière. Lilian Thuram a peut-être un petit peu plus de mal à se reconvertir. Donc, il s'est positionné en pourfendeur de la lutte antiraciste dans le football. Quand ça va trop loin et quand c'est simplement de la communication et de l'image, quand on gratte un petit peu dessous et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose, ça fait fortement défaut aux sportifs.
C'est quoi qui amène les sportifs vers la politique ? Est-ce que c'est les partis qui viennent les chercher et du coup, ils y vont un petit peu en dehors de leur sensibilité politique ou justement, c'est eux qui se manifestent peut-être pour venir justement dire bah, « moi, je suis plus républicain » ou « je suis plus socialiste et du coup, je vais essayer de m'engager dans ce domaine-là ».
Je pense que c'est au cas par cas, ça va dans les deux sens. Finalement, c'est le Parti Socialiste, il y a 5 ans, qui a peut-être mieux utilisé les sportifs, en tout cas qui les a le plus utilisés. François Hollande avait été le seul, il me semble, à organiser un meeting de campagne spécial sur le sport, avec une vingtaine de sportifs de haut niveau. Ça allait de Gwendal Pesra, l'ancien patineur, à Joël Abati, l'ancien handballeur français. Alors sur scène, c'était plutôt une revue de sportifs, une liste de noms qui sanctionnait de manière positive son programme. Mais... pour les sportifs, il y a un vrai intérêt à rentrer dans la vie de la cité et surtout à partager, on le voit avec Laura Flessel, leur expérience du sport. Aujourd'hui, la gouvernance du sport français, elle est très compliquée, elle est assez mal gérée. Donc on a besoin aussi de ces sportifs, alors sur d'autres sujets, mais avant tout sur le sport, pour amener leur expérience du terrain, leur compréhension des enjeux.
Alors on viendra sur Emmanuel Macron et Laura Flessel dans quelques instants. Il y a aussi un autre facteur. L'an dernier, pendant l'Euro de football, plusieurs éditorialistes disaient que la cote de François Hollande pourrait grimper en cas de victoire des Bleus. Alors moi, je me suis rendu sur le site de TNS Sofres et j'ai vu qu'effectivement, entre juillet et août, il a pris 4 points. C'est encore plus visible avec Jacques Chirac, 14 points en 1998, 5 en l'an 2000, 4 en 2006. Ça signifie que le pouvoir et le sport sont intimement liés pour les Français ?
Je pense que le sport, la victoire et le bonheur pour les Français sont intimement liés. Quand vous voyez toute une nation derrière le football, de tous âges, de tous sexes, de partout finalement, se mettre derrière cette équipe de France en finale de l'Euro, y a un facteur un petit peu transcendant qui se transmet à tous. On a tous, à ce moment-là, l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Évidemment, c'est récupéré de manière systématique par les politiques, mais... Il y a des économistes, il y a quelques années, qui s'étaient amusés à essayer de définir ce que pourrait être le bonheur, essayer de mesurer le bonheur. Et je crois que le sport a un grand intérêt et une grande contribution dans cette mesure du bonheur et du bien-être général sur l'état d'une société. On l'a vu avec France 98. Alors ça a été un petit peu exagéré avec cette notion et ce concept de black blamber et d'intégration. Ça y est, il n'y a plus de problème. On joue à 11 dans une même équipe de toute religion et de partout. Donc la France est aussi comme ça. On s'est aperçu qu'il y avait une énorme différence entre le terrain de football et le terrain de la vie de tous les jours. Mais il faut continuer, et Paris 2024, ce sera, si c'est accordé à la France, une énorme victoire déjà pour Emmanuel Macron. Il faut continuer à accueillir ces grands événements sportifs, à passer des heures derrière ces équipes. En tout cas, pour les politiques, c'est dans leur intérêt.
D'ailleurs, vous avez parlé d'histoire récente, cet attelage du sportif aux politiques. On peut le ramener à 1998, justement ?
Oui, je crois que ça commence... Je crois que ça commence ici. Il faut se rappeler que les politiques du sport en elles-mêmes, elles sont assez récentes. Elles commencent dans les années 20-30. Au départ, on est sur une organisation du sport avec l'armée, quelque chose de militaire pour les garçons, pour montrer la virilité, le dynamisme d'une nation. Et de plus en plus, on est passé sur la santé, les athlètes de haut niveau. Vous le disiez bien... Il y a 20 ans, c'était pas très classe de lire l'équipe dans les ministères. Aujourd'hui, ça devient un facteur aussi de différenciation parce qu'on a des sportifs qui sont capables de prendre la parole, parce qu'on a des sportifs qui sont capables de représenter des choses, de représenter des idées, de représenter la France au-delà du terrain, qui sont capables d'être des ambassadeurs. Donc, il y a cette fascination pour le milieu sportif de la part des politiques de plus en plus.
Et le fait de dire je suis fan de l'Olympique de Marseille ou fan du Paris Saint-Germain, on a vu Emmanuel Macron qui était fan de l'OM, c'était le cas également de François Hollande, Sarkozy lui c'était plus Paris Saint-Germain, ça peut justement effacer la sensibilité politique pour un fan de sport ?
Alors je ne sais pas si ça efface la sensibilité politique, mais en tout cas ça les rapproche des gens. Le sport et le football en particulier sont des disciplines extrêmement populaires. Donc on dit souvent que les stades de football effacent les différences, effacent les classes sociales parce qu'on se retrouve tous derrière la même équipe à supporter. Donc oui, vous avez raison, il y a cette dimension-là un petit peu d'effacement des clivages, d'effacement des idées, et on est simplement nu derrière une équipe. Dans la plus simple expression, qui est celle du supporter.
Merci Maxime Leblanc, on se retrouve juste après Maggie Rogers pour continuer cette discussion.
I'm the one that loves you.
Maggie Rogers, Dogger, il est 20h18 sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours à l'écoute de Tête de Vainqueur et on parle ce soir de sport et politique avec Maxime Leblanc, responsable des affaires européennes pour sport et citoyenneté. Avant la pause musicale, on a abordé l'utilisation politique du domaine sportif. On va désormais s'attarder sur les sportifs qui investissent la politique et ils sont nombreux.
Bah, dis pas de conneries non plus.
T'es gentil, me donne pas de leçons. Hein. Tu vas pas me donner des leçons, hein. En plus, il se fout de ma gueule.
Une belle tête de vainqueur.
Et pour nous en parler ce soir, Julien vient de nous rejoindre.
Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Alors vous le savez, hein, les carrières de sportifs professionnels s'arrêtent assez tôt. Et si certains continuent dans le sport, dans une carrière d'entraîneur ou commentateur sportif, et bien d'autres se lancent en carrière politique.
Donc ce soir, tu ne reviens pas sur une date en particulier.
Et non, alors j'ai décidé de vous donner quelques exemples de sportifs ayant fait de la politique avec plus ou moins de succès. Alors, on commence par David Douillet. Hein. Le judoka arrête sa carrière sportive en 2000 après deux médailles d'or olympiques consécutives en 1996 et 2000. En 2009, il deviendra député UMP des Yvelines. Deux ans plus tard, en juin 2011, il est nommé secrétaire d'État en charge des Français à l'étranger. Ceci pour la période estivale, hein, car en septembre, il devient ministre des Sports pour une durée de 7 mois. Période pendant laquelle il fera adopter une loi pour renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Loi qui sera critiquée pour son texte assez pauvre.
David Douillet n'est plus ministre, mais reste dans la politique puisqu'il brigue un nouveau mandat de député dans les Yvelines. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner ?
Ah oui, par exemple celui de Jean-François Lamour, champion olympique de sabre individuel en 1984 et 1988. Cette fine lame se lance en politique dès 1993. Il sera conseiller technique pour la jeunesse et les sports au cabinet du maire de Paris, Jacques Chirac. Et quand ce dernier devient président en 1995, Jean-François Lamour le suit au secrétariat général pendant son premier mandat, puis sera ministre des Sports lors de son second mandat. En 2007, il ne quitte pas la politique, hein, puisqu'il devient président du groupe UMP au Conseil de Paris en 2008, ainsi que le député de la 13e circonscription de la capitale. On peut préciser que Jean-François Lamour a soutenu François Fillon lors de la dernière campagne présidentielle.
Important de le préciser. Finalement, les sportifs sont d'abord célèbres grâce à leur activité sportive, puis des fois se lancent en politique une fois que celle-ci est terminée.
Alors, dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe, hein, effectivement, mais il y a quand même des exceptions, comme par exemple Jacques Chaban-Delmas. place. Il a notamment été maire de Bordeaux entre 1947 et 1995, premier ministre de 1969 à 1972, et puis candidat à la présidentielle en 1974, où il finira troisième avec 15,11% des voix au premier tour. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans les années 60-70, il a pratiqué le tennis de haut niveau. Il participera notamment à Roland-Garros ainsi qu'au championnat de France de tennis. Il a aussi pratiqué le rugby à 15 juste avant de se lancer dans la politique, et son nom a été donné à l'ancien stade Parc Lescure à Bordeaux en 2001. Alors les sportifs en Loire sont donc assez nombreux à faire de la politique, et le gouvernement d'Emmanuel Macron ne fait pas exception avec l'entrée de l'ancienne escrimeuse Laura Flessel, qui est devenue mercredi ministre de sport.
Merci Julien. Avant d'évoquer à Laura Flessel, une réaction Maxime Leblanc sur ces hommes politiques anciens sportifs.
Oui, il y a quelques parcours effectivement de certaines personnalités qui arrivent à traduire l'excellence sportive qu'ils incarnent et la notoriété qu'ils ont, parce que c'est vraiment ça, hein, le premier pas de la politique pour eux, c'est transformer cette notoriété, la connaissance que les gens ont pour eux en parcours politique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement le prestige et l'excellence de l'athlète effacent peut-être un petit peu les idées, on s'attache moins à son programme, et ça marche pas que au niveau national, il y a beaucoup d'exemples au niveau local, dans des petites communes. Votre coach Manu de l'équipe de basket qui met 20 points tous les week-ends depuis 10 ans et qui fait vibrer toute sa commune, le jour où il se présente à la mairie de sa ville, il a des chances en plus parce qu'il a cet engagement et parce qu'il faisait vibrer les foules sur le terrain.
Julien a évoqué Laura Flessel, ministre des Sports. Alors, outre la volonté d'installer des citoyens de la société civile dans son gouvernement, c'est un choix que celui d'Emmanuel Macron de mettre quelqu'un de compétent dans son domaine. C'est un bon choix.
Écoutez, je ne suis pas là pour...
Dans le domaine du sport, en tout cas.
Laura Flessel, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du sport depuis des années, qui a une carrière brillante. Le timing est plutôt bon pour installer une athlète olympique, une double championne olympique, à la tête d'un ministère des Sports de plein exercice, il faut le rappeler, étant donné qu'on a les Jeux et la candidature de Paris 2024 en ligne de mire. Il faut lui laisser du temps, il faut voir comment quelles vont être ses priorités, comment elle va s'entourer. Et puis il faut lui souhaiter le meilleur et le plus de chances possible pour réussir à mettre en place des actions avec un ministère qui représente 0,3% du budget de l'État, donc avec une marge de manœuvre extrêmement limitée.
Donc justement, le sport est passé d'un secrétariat d'État à un ministère, donc est-ce qu'on peut dire que le sport va occuper une place plus importante dans ce quinquennat à venir ?
Écoutez, c'est difficile à anticiper. On oscille de temps en temps d'un secrétariat d'État à un ministère de plein exercice. Aujourd'hui, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut essayer de distinguer. Il y a ce que le ministère des Sports peut faire pour le sport, pour les athlètes de haut niveau, pour le sport pour tous. Et il y a tout ce que le sport peut amener de manière transversale dans d'autres agendas et dans d'autres politiques publiques. Nous, notre souhait à Sport et Citoyenneté, on l'a exprimé pendant cette campagne auprès de tous les candidats, c'était qu'il y ait un spécialiste du sport qui soit rattaché directement à Matignon, directement au Premier ministre, et qui puisse avoir une vision d'ensemble sur l'économie, sur le développement durable, sur la santé, sur les affaires étrangères, sur le tourisme. Parce que le sport, aujourd'hui, il est lié à tous ces sujets-là. Donc, cloisonner le sujet sport au ministère des Sports, ça nous a fait défaut pendant très longtemps. On a été tantôt du côté de la santé, tantôt de l'éducation nationale. Les relations entre les ministères ne sont pas forcément évidentes. Donc finalement, on reste dans une continuité avec un ministère qui a peu de budget, peu de moyens, et qui a du mal à s'imposer. Laura Flessel, elle aura certainement beaucoup de mal à s'imposer en Conseil des ministres face à ses collègues. Les arbitrages se feront certainement en sa défaveur. Encore plus, étant donné qu'elle a une expérience du politique un petit peu plus ténue que ses collègues.
Donc on vient de l'entendre, pas de grand changement. Est-ce qu'elle peut cependant avoir une influence pour la candidature de Paris 2024, qui sera rendue le 13 septembre prochain d'ailleurs ?
Oui, elle peut et elle doit surtout avoir une influence, une influence forte. Laura Flessel, c'est quelqu'un qui est connu en France et au-delà des frontières françaises. Elle fait partie de cette famille olympique et de double médaillés olympiques. Ils sont pas beaucoup, donc quand elle parlera de Jeux olympiques, elle sait de quoi elle parle. Je pense qu'elle est excellente pour porter ce projet aussi. En faisant attention toutefois, et ça a été l'erreur qu'on a pu faire en France par le passé, de ne pas brouiller les messages non plus, de ne pas avoir trop de personnes qui parlent au nom de la candidature. Aujourd'hui, on a un comité qui est bien identifié, hein, avec Tony Estanguet et Bernard Lapassé, qui sont vraiment les deux figures de proue de la candidature, et puis un soutien fort de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Et des sportifs également, au-delà de Tony Estanguet. On l'a reçu le mois dernier, ici, même Gladys Épang.
Et des ambassadeurs, donc il faut faire attention à ne pas
tout mélanger
et faire partir la communication dans tous les sens. Ouais.
Pour revenir donc au programme d'Emmanuel Macron concernant le sport, donc dans son programme, il a vraiment une stratégie de décentralisation de la politique sportive en France, en voulant confier plus d'autonomie aux acteurs locaux, aux fédérations sportives et au Comité national olympique et sportif français. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ?
Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire en France, c'est clarifier la gouvernance du sport, l'organisation du sport. On est le seul pays en Europe à avoir un petit peu deux têtes, qui sont le Comité national olympique et sportif et le ministère des Sports, avec des compétences qui sont un petit peu parfois qui se chevauchent. On est le seul pays en Europe à fonctionner comme ça. Et sur la décentralisation, évidemment, les budgets, les compétences aujourd'hui, elles sont dans les communes, elles sont dans les villes. Il faut accentuer ce maillage territorial. Il faut donner la compétence et le budget aux autorités locales pour s'occuper du parc sportif, pour s'occuper de tous les projets aussi qui vont avec les infrastructures. Aucun intérêt à mettre des panneaux de basket et des skateparks s'il n'y a pas de vraie politique derrière, avec des éducateurs qui vont chercher les gamins dans les écoles, qui les emmènent après l'école pour pratiquer une activité physique. Ça, aujourd'hui, c'est nécessaire parce qu'on est dans une situation d'extrême sédentarité. C'est un des grands challenges de l'Union européenne aujourd'hui.
On a parlé d'ailleurs, Laura Flessel, hein, je me permets de vous interrompre, lors de sa première interview.
Oui, c'est quelque chose d'assez dramatique. Hein. Aujourd'hui, on prévoit, si l'inactivité physique continue, que les enfants, la génération de nos enfants, donc des miens et des vôtres, si on continue sur ces taux d'inactivité physique, ils auront une espérance de vie de 5 ans inférieure à la nôtre. Donc les courbes d'espérance de vie commencent à s'inverser parce que nos enfants ne courent plus, ne font plus de vélo, ne vont plus au sport. Donc il y a un vrai challenge ici, et ça passe par les communes, ça passe par les villes qui sont aujourd'hui à même, qui sont les plus près du citoyen tout simplement, et qui peuvent nous permettre au quotidien d'aller au boulot en vélo, de marcher en toute sécurité dans les rues, de mettre en place des programmes d'incentives pour les entreprises pour qu'elles proposent de l'activité physique au travail, de proposer des activités physiques dans le cadre de l'école de qualité, une éducation physique et sportive de qualité, et également des programmes en dehors de l'école.
Et qui fassent peut-être aussi envie aux enfants, parce que c'est bien beau, on a tous fait du sport à l'école, quand on fait athlétisme et... Pour ma situation personnelle, grand et costaud, l'athlétisme, ce n'est pas forcément le sport qui me correspond le mieux. Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter aussi ces programmes scolaires ?
Les programmes scolaires, ils sont difficiles à adapter, et vous avez raison. La notion qui doit être centrale, c'est la notion de plaisir. Il faut apprendre des choses, et il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on apprend en éducation physique et sportive ? Est-ce qu'on apprend à utiliser son corps et à bouger correctement ? Ou est-ce qu'on fait... Alors c'est une expérience personnelle aussi traumatisante. Est-ce qu'on fait des tours de parking pendant une heure ?
Exactement, voilà.
Donc il y a des programmes éducatifs, l'éducation nationale travaille là-dessus aussi avec le ministère des Sports. Et il ne s'agit pas de mettre 5 heures d'activité de PS par semaine. On peut avoir 2 ou 3 heures, mais de qualité, avec des vrais objectifs pédagogiques, avec des professeurs d'éducation physique qui ne sont pas la dernière roue du carrosse et qu'on n'écoute jamais. Donc... Ça, c'est un vrai enjeu, parce qu'il faut remettre aujourd'hui les Français en mouvement. Ça commence par les enfants. Les 10 premières années de la vie sont primordiales. C'est là qu'on apprend. C'est là que notre cerveau imprègne et éponge nos habitudes, nos comportements d'activité physique. Donc il faut pouvoir activer ça dès le plus jeune âge.
Très bien. On continue cette discussion dans 4 minutes. Le temps d'écouter Kidwise. Il est 20h34 sur Radio Campus Paris. C'était Kidwise. Hop, vous êtes toujours à l'écoute de Tête de Vainqueur. On parle ce soir de sport et de politique avec Maxime Leblanc, responsable des affaires européennes pour sport et citoyenneté. Et on va parler également d'Emmanuel Macron avec toi, Mickaël.
Oui, alors Emmanuel Macron, dans son programme, donc, il a ciblé des catégories de la population qui sont aujourd'hui éloignées du sport. Donc il parle des demandeurs d'emploi, des retraités, des ouvriers, des femmes et hommes au foyer. Et il propose même un objectif chiffré puisqu'il vise une augmentation de pratiquants réguliers de 10%, ce qui représente environ 3 millions de personnes. Est-ce que ce constat et cet objectif vous semblent pertinents ?
Alors ça dépend si on parle de remettre les gens au sport dans des clubs de sport ou si c'est remettre les gens à l'activité physique. Je pense que c'est plausible et c'est faisable de remettre les gens à l'activité physique, donc simplement être en mouvement au quotidien, pas forcément être licencié dans un club et avoir un entraînement, deux entraînements et un match le week-end. Ça peut paraître aujourd'hui un petit peu restrictif et un petit peu étouffant pour beaucoup de gens, en particulier dans les grandes villes. Les cibles identifiées, elles sont à la fois bonnes et pas bonnes, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont très éloignées du sport. Les femmes, de manière générale, sont beaucoup plus éloignées du sport que les hommes. On parle aussi très peu des personnes en situation de handicap, où aujourd'hui l'offre de handisport en France est finalement assez peu lisible, de la même manière avec plusieurs fédérations qui s'occupent des fois un petit peu de la même chose. Donc l'objectif, il est plausible. On est ravis, évidemment, qu'il soit là. Il faut maintenant donner les moyens à cette ministre des Sports, qui est Laura Flessel, d'atteindre cet objectif-là, de remettre les gens en mouvement, de remettre les Français en mouvement dès le plus jeune âge. Encore une fois, les habitudes d'activité physique se prennent avant 10 ans. Et donc, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, nous, on est persuadés que le tournant, il est au niveau des communes, il est dans la décentralisation, il est dans l'idée de donner au niveau le plus décentralisé possible les moyens pour remettre les gens en mouvement dans les communes, dans les petites entreprises, dans les écoles, sur la route, sur les pistes cyclables, etc. Il y a plusieurs environnements comme ça qu'on doit pouvoir activer au niveau local, au plus près des gens. Et en communiquant bien sur cette idée qu'on les remet à l'activité physique, pas au sport. Parce qu'on on a vite dévié là-dessus tout à l'heure, finalement, de sport à l'école et de PS et d'expériences un petit peu traumatisantes. Il ne s'agit pas de faire du sport en compétition ou en loisir, simplement de reprendre des habitudes qu'on avait il y a 40 ou 50 ans, mais qu'on a perdu à force de progrès technique, à force de technologie. Et on peut aujourd'hui le faire si c'est un vrai objectif politique inscrit auprès de la ministre des Sports, promouvoir l'activité physique au quotidien. Aujourd'hui, l'inactivité physique en Europe, ça coûte 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros par an.
Guillaume nous en avait parlé dans sa chronique santé il y a de ça quelques semaines.
Il y a 210 millions d'Européens qui sont inactifs en Europe. Et surtout, il y a 75% des élus locaux en Europe qui n'ont absolument aucune idée du taux d'obésité et du taux de surpoids de leurs administrés. Donc il y a un vrai gap ici avec les communes, avec les autorités locales. C'est toujours une bonne chose pour un maire, pour un élu local, d'investir dans le sport, d'investir dans l'activité physique. C'est créateur de liens sociaux. Ça ramène de la notoriété, de l'attraction. On sait aujourd'hui que les villes qui sont actives sont beaucoup plus compétitives. On attire des talents, on retient des talents, on attire des entreprises, etc. Donc il y a toute une série de bénéfices de l'activité physique qu'il faut pouvoir activer aujourd'hui, encore une fois, plus tôt, au niveau des collectivités locales et des communes, et pas simplement se concentrer, même si c'est quelque chose de formidable, sur les Jeux Olympiques, sur Paris 2024 et sur le sport de haut niveau.
Ça va au-delà. Il y a également des initiatives populaires. Et Léa, ce soir, nous en propose au coin de la rue ou de l'autre côté des frontières, de nombreuses associations sportives s'engagent.
Et oui, et ce qui est réjouissant, c'est que les initiatives sont nombreuses. En fait, les valeurs sportives sont vraiment compatibles avec l'engagement politique. Ils portent beaucoup de choses en commun, comme la question de l'intégration, du dépassement des différences, ou encore du respect. Et tout ça, c'est des valeurs qui peuvent s'appliquer individuellement sur le terrain, mais elles peuvent aussi être convoquées pour des combats plus grands. Et on va voir que les combats menés sont divers et nombreux. Il y a par exemple la Saint-Denis Football Academy, de l'autre côté du périph, qui accueille depuis 10 ans des Africains qui espèrent percer dans le foot en Europe. Parce que souvent dans leur pays, les sportifs de niveau ne peuvent pas gagner leur vie que grâce à ça, ils tentent leur chance en France. Certes, le club n'est pas un tremplin pour tous, mais ça fonctionne pour certains, qui signent des contrats dans des clubs de province. Et puis pour les autres, le club est un refuge qui leur permet une intégration en douceur et un accompagnement pour recommencer une vie en France, voilà, avoir des papiers et pourquoi pas reprendre des études. Et c'est clair que les valeurs du sport collectif, ils sont pour quelque chose. On dit pas, la joue pas perso pour rien. En fait, le sport apparaît là comme un puissant ciment d'intégration. Toujours sur la question de l'intégration, il y a une super initiative de nos amis suédois. Il faut savoir qu'ils sont plus de 200 000 réfugiés à avoir débarqué en Suède depuis 2015 et ça a soulevé des questions liées à l'intégration. Et le sport est apparu comme une des solutions. Il y a un entrepreneur qui a monté une équipe de bandits, qui est l'ancêtre du hockey et qui est très connu en Scandinavie. Alors vous imaginez, le froid, la glace, le patinage, ça n'a rien à voir avec le climat que connaissaient ces réfugiés somaliens jusque-là. Mais bon, ça leur a pas fait peur puisque ça fait 4 ans qu'ils participent au championnat de bondi. Et très vite, la création de cette équipe a porté ses fruits. Ouais, ça leur a permis d'être en contact avec des Suédois puisqu'ils ont été coachés par eux, de découvrir le sport national et puis finalement d'essayer quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. La pratique sportive est aussi source d'émancipation et d'affirmation de soi. Parmi les belles initiatives qui illustrent ça, il y a celle des dégommeuses. C'est une asso qui promeut le foot féminin et surtout qui a un volet militant. Donc elles font beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a l'accueil de joueuses réfugiées en raison de leur orientation sexuelle. Elles font aussi partie d'un réseau international de lutte contre les discriminations dans le sport. Et finalement, militer contre l'homophobie par le sport, ça permet de s'affirmer et de ne pas mener son combat dans son coin. Et donc, encore une fois, le sport collectif, ça permet ça. C'est un militantisme à cheval entre la passivité et la combativité. Mais il y a aussi autre chose. Le sport permet de faire passer des messages. C'est un outil de communication important. C'est un moyen très efficace pour transmettre des idées, puisque le sport fédère et est largement chargé de valeurs positives. Il faut cependant rappeler que le sport est aussi cause de nombreuses discriminations liées au genre, à la classe sociale ou à l'orientation sexuelle. Et ces discriminations n'échappent pas à la pratique populaire du sport. Dans ce cas, l'aspect politique est présent aussi puisqu'il va soulever une résistance de la part des personnes discriminées. On ne s'étonne pas d'entendre pendant des matchs entre copains puis même après dans les tournois au travail, comme me l'a relaté une de mes amies qui est footballeuse quand même depuis 20 ans, que de joueuses équivalaient à un joueur. Donc positivement ou négativement, et même dans les initiatives populaires, le sport est éminemment politique.
Merci beaucoup, Léa. Une réaction, Maxime Leblanc.
Oui, écoutez, je pense que nous, c'est aussi notre combat de mettre en lumière des initiatives locales qui utilisent le sport pour faire passer des messages. On essaye de les sortir de France, de les amener à un niveau européen, de les comparer pour qu'on s'inspire de modèles différents. Donc on a un vrai travail de benchmark là-dessus. Je vous invite à aller voir le travail incroyable que fait le club de foot de Krainem dans la banlieue de Bruxelles en Belgique, qui a accueilli plus de 400 réfugiés dans son club de football. Pas simplement pour leur donner une après-midi normale, entre guillemets, mais aussi avec des cours de français, une mobilisation des bénévoles, donc tout un parcours. Il y a beaucoup de grandes initiatives en Bretagne, une entreprise qui s'appelle Orthofiga et qui fait des prothèses pour les jambes, organise 4, 5, 6 événements par an pour faire courir, pour faire du surf à des amputés ou des doubles amputés. Donc il y a énormément d'initiatives au niveau local parce que le sport, comme disait votre collègue, fédère, est attaché à beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs positives.
Justement, on va parler de votre association, de votre think tank avec Mickaël.
Alors sur le site donc justement de Sport Citoyenneté, il est écrit que donc ce think tank est ainsi régulièrement consulté par les institutions internationales et européennes, les États membres, le mouvement sportif et la société civile. Et concrètement, comment Sport et Citoyenneté agit en France, par exemple ?
Écoutez, nous, notre travail, c'est un vrai travail de lobby. C'est souvent associé à quelque chose de négatif. Nous, on ne se le cache pas, ce n'est pas un gros mot pour nous. On appelle ça aussi du plaidoyer, c'est un petit peu plus soft. On fait très clairement du lobby politique. Donc, il s'agit de mettre à l'agenda des sujets d'importance majeure. Donc, on parlait du handisport tout à l'heure, on parlait de l'égalité homme-femme. De mettre ces sujets à l'agenda, de s'assurer qu'ils leur restent. Et on est une petite équipe à Sport et Citoyenneté, mais on a un grand réseau. La force de Sport et Citoyenneté aujourd'hui, c'est son contenu. Donc on est en capacité de mobiliser à la fois des idées, des experts et des personnalités pour faire avancer des sujets dans le sport. Donc nos outils, c'est l'organisation de conférences, c'est des notes, des amendements dans les projets de loi, des émissions télé, des articles, des clips. une très grosse présence sur les réseaux sociaux. C'est tout un panel de, d'activités aujourd'hui qui nous permettent de maintenir une réputation, une crédibilité qui est basée, et c'est pour ça qu'on nous écoute, sur l'indépendance, sur l'objectivité et sur la qualité scientifique de notre travail.
Et alors pour promouvoir l'activité physique au sein des pays membres de l'Union européenne, il y a le projet PASS, donc piloté par Sport et Citoyenneté. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ?
Oui, absolument. Le projet PASS, c'est une initiative de 3 ans qui a commencé en janvier 2015, qui est financée par la Commission européenne via un programme qui s'appelle Erasmus+. Il y a un volet sport. Donc la Commission européenne, avec 5 autres partenaires européens, a décidé de nous accorder un tour de parole pour... qu'on essaye de lui expliquer, de lui amener des solutions sur l'inactivité physique en Europe. J'évoquais tout à l'heure cette idée de, des enfants qui auront une espérance de vie de 5 ans inférieure à la nôtre. Notre point de départ, il est vraiment là. On est parti d'une campagne internationale qui s'appelle Design to Move, où l'idée, c'est véritablement que nos corps sont faits pour bouger, qu'il faut réintroduire l'activité physique au quotidien et créer des expériences positives dès le plus jeune âge. Donc le projet PASS, il fonctionne de la manière suivante. On est aujourd'hui presque à la fin, on finira en 2017. On a conduit une étude pendant 1 an et demi sur l'état de l'activité physique en Europe, et en particulier sur les politiques publiques d'activité physique en Europe, où on s'est rendu compte justement de cette chose. La Commission européenne et l'Union européenne a une position, a des lignes directrices. Les États membres ont quasiment tous un plan national du sport ou du sport santé. Mais dans ce tour de table-là, on a oublié les communes. Donc ces plans nationaux, ils ont du mal à descendre au niveau des communes et des villes, là où les maires et les élus locaux ont les compétences pour activer, entre guillemets, leurs citoyens. Donc pour essayer de répondre à ces défis-là, à cette question-là de la sédentarité, on a mobilisé nos partenaires sur 5 réunions de travail, 5 workshops thématiques sur l'éducation, sur la santé, sur le sport pour tous, sur les villes, et sur l'industrie aussi, on a posé la question de la contribution de l'industrie du sport à la promotion de l'activité physique. Donc on finira cette année, on est en train de construire nos recommandations finales qui seront diffusées auprès des États membres, auprès de la Commission européenne, donc auprès de tous les ministères des sports, des ministères de la santé de l'Union européenne et des organisations pertinentes de la gouvernance du sport. Donc on a un gros défi aujourd'hui. On en a pas mal parlé, j'en suis très heureux, de cette sédentarité, de ce vrai problème de remettre les gens à l'activité physique, parce que ça a des conséquences économiques, sociales et personnelles, individuelles extrêmement, extrêmement graves.
Alors je sais que derrière votre poste, vous écoutez attentivement cette émission. On va vous permettre de faire une petite activité physique, le temps d'écouter Anna of the North.
Stop, take it slowly, darling. This time I'm feeling a change. Stop thinking too much about it. Love's gonna heal us again and again. Just move with me, darling, and I'm gonna move with you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Tête de Vainqueur, le magazine sport de Radio Campus Paris 93.9. Et on parle de sport et politique avec Maxime Leblanc. Alors jusqu'à présent, on a parlé politique nationale, européenne. J'aimerais qu'on aborde désormais la partie internationale ou plutôt mondiale. Je voudrais par exemple parler du Qatar, dont l'argent inonde aujourd'hui le monde du sport. Ils vont également organiser la Coupe du Monde 2022. La présence d'un pays aussi impliqué que l'est le Qatar dans le sport, c'est pas un problème ?
Ça dépend de quel point de vue on se place. A priori, pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'est pas un problème. Je ne sais pas s'il faut qu'on qualifie ça ou pas. La chose qui est vraie, c'est que le Qatar a compris, avant beaucoup d'autres pays, l'importance de cette diplomatie publique, de ce soft power par le sport. Au lieu, avec tout cet argent et cette manne financière de l'État, d'investir dans du bâti, dans les industries, dans des commerces un peu classiques, ils ont décidé d'investir dans le sport, donc dans le cœur des gens. Et on l'a vu, ils ont petit à petit accueilli des étapes de la Coupe du Monde de vélo, la Coupe du Monde de handball, cette Coupe du Monde de football.
On va pas revenir sur l'équipe qatari de handball qui a beaucoup de sportifs européens et mondiaux.
Et aujourd'hui, il y a d'autres pays qui commencent à le faire un petit peu. La Russie commence à le faire avec ses investisseurs. C'est une manière aussi d'avoir une influence diplomatique sur un pays, parce que le football, le sport, ça parle à tout le monde. On est à la fois dans la tête et dans le cœur des gens.
Vous parlez de la Russie, il y a la Chine aussi, qui a fait de son programme sportif un programme très important. Oui. Il recrute très jeunes, des jeunes sportifs, pour les amener au plus haut niveau. Là, il n'y a pas de plaisir, c'est vraiment gagner pour remporter. À quoi ça sert ?
Il y a un vrai objectif présidentiel du président chinois, hein, qui est un grand fan de football. Son objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde d'ici 2030. Donc, il met le paquet et il vient chercher, en particulier en France, parce qu'on a un vrai savoir-faire de formation et d'organisation du football en France. Il vient chercher les talents français, des formateurs, des encadrants, pour pouvoir amener une génération à la Coupe du Monde. C'est un territoire qui connaît peu le football, finalement. Je ne sais pas si c'est l'objectif. Il faut essayer de garder cette notion de plaisir, cette notion de fun et de passion, d'amusement, qui est primordiale aussi pour une carrière de haut niveau. On réussit rarement moins bien si on n'est pas passionné par ce qu'on fait.
Alors ça, c'est le cas pour le football, mais par exemple pour les Jeux Olympiques, on a l'habitude depuis une vingtaine d'années de voir la Chine au top avec les États-Unis par exemple. Pourquoi cette quête de médaille, qu'est-ce qu'elle apporte, cette quête de médaille?
C'est encore une fois la grandeur d'une nation. Pour les Jeux Olympiques, le principe est assez simple. Vous avez les caméras du monde entier braquées sur un pays et sur tous ses athlètes pendant un mois. Ça reste une compétition, pas seulement entre les athlètes, mais entre les pays. Vous pouvez regarder la Grande-Bretagne et Londres qui a accueilli les Jeux Olympiques de 2012. Entre Barcelone en 92 et 2012, ils ont doublé ou triplé leur total de médailles. Parce qu'ils étaient chez eux et qu'il fallait montrer qu'ils étaient forts, qu'ils étaient capables de gagner dans des compétitions, en plus de l'organiser. Donc, être fort au JO, pendant très longtemps, pendant la guerre froide et des périodes un petit peu tendues sur la scène internationale, c'était un argument de plus pour dire « je suis un pas devant, tu es un pas derrière ».
Du temps de l'Allemagne nazie aussi.
Absolument, ça. Le sport a toujours été instrumentalisé et utilisé. Ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que si vous regardez tous les pays issus de la décolonisation, et de l'éclatement de l'URSS puis de la Yougoslavie, les deux premières choses qu'ils ont faites, une fois qu'ils ont eu leur indépendance, c'est demander leur accession à l'ONU, et numéro 2, demander leur accession au CIO. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour être aussi reconnu sur la scène internationale, dans les affaires internationales et diplomatiques. Aujourd'hui, le Kosovo a célébré comme une victoire le fait d'être reconnu membre de l'UEFA l'année dernière ou il y a deux ans. C'est un facteur de reconnaissance de l'existence d'une nation, de l'existence d'un peuple sur la scène internationale. Ça passe par le sport.
Et les Jeux Olympiques, c'est aussi un symbole de revendication politique. On se rappelle de notamment Tommy Smith et John Carlos en 68 à Mexico, un symbole de portée internationale. C'est ça aussi. On revendique haut et fort ce que l'on pense.
Oui, vous avez la publicité gratuite la plus efficace du monde. La preuve, on en parle encore des décennies après. Je pense que les Jeux Olympiques ont vocation à être neutres, comme le sport. C'est un petit peu hypocrite parce que c'est quelque chose de très politique, de très clivant aussi. Mais il faut qu'on continue à avoir ces athlètes qui s'expriment sur le terrain sportif, qui font passer des messages. Alors si ces messages peuvent être positifs, tant mieux. C'est un vecteur de communication très important. Il faut continuer absolument de l'utiliser parce que on a pendant ces Jeux Olympiques une espèce de chape de plomb qui se pose sur le monde, sur la scène internationale, où on ne regarde plus que ça. Il n'y a plus rien d'autre. Alors ça a des succès plus ou moins mitigés. On a parlé de boycott pour les Jeux de Pékin et sur l'incapacité chronique du gouvernement chinois à respecter une longue liste de droits de l'homme et de droits humains. Donc ça marche plus ou moins bien. Mais je crois qu'il faut continuer d'utiliser ces Jeux Olympiques pour ces messages-là, parce que le sport peut être un facteur pour faire avancer des sujets dans la société de manière générale.
Et une question de lobbying aussi pour avoir l'attribution d'une ville. On l'a reproché à Paris lors de ses précédentes candidatures. Aujourd'hui, on le recevait le mois dernier, Pierre Abadan et Gladys Sépang, qui nous disaient que cette année, la politique, elle était différente. On s'axe un petit peu plus sur le lobbying comme ont pu le faire d'autres pays précédemment.
Oui, encore une fois, nous on l'utilise et c'est pas un gros mot, ce lobbying, c'est du pouvoir d'influence. C'est montrer aussi la force d'un projet. Il s'agit pas simplement de déposer un dossier et d'attendre sagement ce qui va se passer. Il faut pouvoir convaincre. Le lobbying, c'est la force de convaincre. Ça a peut-être été un petit peu négligé pendant la campagne pour les Jeux de 2012. On s'est peut-être dit on joue dans les règles parce qu'on est un petit peu, on flirte un petit peu avec la ligne. Je crois aujourd'hui que la candidature de Paris, elle est exceptionnelle. Il y a eu une consultation très très large des acteurs de la société civile et des organisations dont on a eu le plaisir de faire partie aussi. Et il y a un vrai projet sur l'héritage, les infrastructures sont là. Il y a un vrai projet d'investissement dans les infrastructures, d'investissement dans les emplois, qui est très positif.
La réponse sera le 13 septembre prochain. Merci beaucoup Maxime Leblanc d'être venu nous voir ce soir.
Avec
pour
plaisir.
Plus d'informations, Sport et Citoyenneté.
Sportetcitoyenneté.com, en français et en anglais. On est une organisation bilingue qui travaille dans les deux langues. Et je vous invite évidemment à devenir adhérent de l'association, parce qu'on est aussi une association à but non lucratif qui fait du lobby. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est notre cas.
Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est à retrouver en podcast sur le site Radio Campus Paris. Grand merci à toute l'équipe de vainqueurs, Mickaël, Rémi, Julien et Léa. C'était la dernière manche inédite et en direct de la saison 1 de Tête de Vainqueur de l'année. Le 17 juin prochain à 20h, vous pourrez retrouver les meilleurs moments de la saison. Nous, on se donne rendez-vous en direct en septembre prochain. Comme chaque mois, c'est désormais une habitude. La minute qui reste, un condensé d'actualité très très récente. Très belle soirée à vous à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9.
Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Madame Laura Flessel, ministre des Sports.
Je reprends le flambeau pour le sport français. Il y a des projets qui me tiennent à cœur. On a parlé d'obésité, on a parlé de la femme, du sport pour tous. Il y a un challenge à relever, mais voilà, aujourd'hui c'est un jour où on a le sourire et demain on travaillera.
Il y a la une ce matin, ambiance pump it up au stade Louis II.
Ah oui, ambiance boîte de nuit, ils ont fêté le titre, les Monégasques, le titre de champion de France acquis hier soir à domicile. Succès 2-0 contre Saint-Etienne, le sacre du jeu, du spectacle, 104 buts inscrits en Ligue 1.
Finale à domicile qui est l'aboutissement de beaucoup de choses, du fait qu'on était il y a 4 ans et demi en Ligue 2 et puis maintenant on se retrouve champion de France de Ligue 1.
C'est fini.